Héliogabale ou l'anarchiste couronné de Antonin Artaud. Je dédie ce livre au man d'Apollonius de Tyane, contemporain du Christ, et à tout ce qui peut rester d'illuminé véridique dans ce monde qui s'en va. Et pour bien marquer son inactualité profonde, son spiritualisme, son inutilité, je le dédie à l'anarchie et à la guerre pour ce monde. Je le dédie enfin aux ancêtres, aux héros dans le sens antique, et aux âmes des grands morts. Le berceau de sperme. S'il y a autour du cadavre d'Héliogabale, mort sans tombeau et égorgé par sa police dans les latrines de son palais, une intense circulation de sang et d'excréments, il y a autour de son berceau une intense circulation de sperme. Héliogabale est né à une époque où tout le monde couchait avec tout le monde. Et on ne saura jamais où ni par qui sa mère a été réellement fécondée. Pour un prince syrien comme lui, la filiation se fait par les mères. Et, en fait de mère, il y a autour de ce fils de cocher, nouveau-né, une pléiade de Julie. Et qu'elles exercent ou non sur le trône, toutes ces Julies sont de haute grue. Leur père à tous, la source féminine de ce fleuve de stupre et d'infamie, devait, avant d'être prêtre, avoir été cocher de fiacre. Car on ne comprendrait pas, sans cela, l'acharnement que mit Héliogabale une fois sur le trône à se faire enculer par des cochers. Toujours est-il que l'histoire remontant du côté féminin aux origines d'Héliogabale se bute immanquablement à ce crâne gâteux et nu, à ce fiacre et à cette barbe qui composent dans nos mémoires la figure du vieux Bassianus. Que cette momie serve un culte, cela ne condamne pas ce culte, mais les rites imbéciles et déchargés auxquels les contemporains des Julie et des Bassiens et la Syrie d'Héliogabale naissant avaient fini par réduire ce culte. Mais ce culte mort est réduit à des ossements de gestes auxquels Bassianus se livrait, il faudra voir comment, dès l'apparition d'Héliogabale enfant sur les marches du temple d'Émèse, il reprend, sous les croyances et sous les revêtements, son énergie d'or concentrée, de lumière retentissante et réduite, et redevient miraculeusement agissant. En tout cas, cet aïeul bassien, s'appuyant sur un lit comme sur des béquilles, fait avec une femme de hasard ses deux filles, Julia Domna et Julia Meza. Il les fait et il les réussit. Elles sont belles. Belles et prêtes pour leur double métier d'impératrice et de catin. Avec qui a-t-il fait ses filles? L'histoire, jusqu'à présent, ne le dit pas. Et nous admettrons que ça n'est point d'importance, obsédés que nous sommes par les quatre têtes en médaille de Julia Domna, Julia Meza, Julia Somia et Julia Mama. Car si Bassianus fait deux filles, Julia Domna et Julia Meza, Julia Meza à son tour fait deux filles, Julia Semnia et Julia Maema. Et Julia Meza, avec pour mari Sextus Varius Marcellus, mais sans doute fécondé par Caracalla ou Geta, fils de Julia Domna, sa sœur, ou par Gessius Marcianus, son beau-frère, l'époux de Julia Maema, ou peut-être par Septime Sévère, son arrière-beau-frère, enfante Varius Avitus Bassianus, plus tard surnommé Elagabalus, au fils des sommets, faux Antonin, Sardanapale, et enfin Héliogabale, nom qui semble être l'heureuse contraction grammaticale des plus hautes dénominations du soleil. On voit d'ici ce bronze gâteux, Bassianus, à Émèse, sur les bords de l'Oronte, avec ses deux filles, Julia Domna et Julia Meza. Ce sont déjà deux fameuses bougresses que ces deux filles issues d'une béquille avec un sexe masculin au bout. Bien que faites à longueur de sperme, et au point le plus éloigné que son sperme atteint les jours où le parricide éjacule, je dis le parricide et on verra tout à l'heure pourquoi, elles sont toutes deux bien constituées et massives, massives, c'est-à-dire remplies de sang, de peau, d'os, et d'une certaine manière, et d'une certaine matière livide qui passe sous les colorations de leur peau. L'une, grande et poudrée de plomb, avec sur le front le signe de Saturne, Julia Domna, pareille à une statue de l'injustice, l'injustice accablante du sort. L'autre, petite, maigre, ardente, explosive et violente, et jaune comme une maladie du foie. La première, Julia Domna, est un sexe qui aurait eu de la tête, et la seconde, une tête à qui le sexe ne manqua pas. L'année où commence cette histoire, l'an 960 et quelques de la dégringolade du Latium, du développement séparé de ce peuple d'esclaves de marchands, de pirates, incrusté comme des morpions sur la terre des Étrusques, qui n'a jamais fait au point de vue spirituel que de sucer le sang des autres, qui n'a jamais eu d'autre idée que de défendre ses trésors et ses coffres avec des préceptes moraux dessus. Cette année 960 et quelques, qui correspond à l'an 179 du règne de Jésus-Christ, Julia Domna, l'aïeule, pouvait avoir 18 ans, et sa sœur 13, et elles étaient, il faut le dire, en âge de bientôt se marier. Mais Julia Domna ressemblait à une pierre de lune, et Julia Messa à du soufre écrasé au soleil. Qu'elles fussent toutes les deux pucelles, je n'en mettrai pas la main au feu, et il faut demander cela à leurs hommes, c'est-à-dire, pour Pierre de Lune, à Septime Sévère, et pour le soufre, à Julius Barbacus Mercurius. Au point de vue géographique, il y avait toujours cette frange de barbarie autour de ce qu'on a bien voulu appeler l'Empire de Rome, et dans l'Empire de Rome, il faut mettre la Grèce qui a inventé historiquement l'idée de la barbarie. Et, à ce point de vue, nous sommes, nous, gens d'Occident, les dignes fils de cette mère stupide, puisque pour nous, les civilisés, c'est nous-mêmes, et que tout le reste, qui donne la mesure de notre universelle ignorance, s'identifie avec la barbarie. Pourtant, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les idées qui ont permis au monde romain et grec de ne pas mourir tout de suite, de ne pas sombrer dans une aveugle bestialité, sont justement venues de cette frange barbare. Et l'Orient, loin d'apporter ses maladies et son malaise, a permis de garder le contact avec la tradition. Les principes ne se trouvent pas, ne s'inventent pas. Ils se gardent, ils se communiquent. Et il est peu d'opérations plus difficiles au monde que de garder la notion, distincte à la fois et fondue dans l'organisme, d'un principe universel. Tout cela est pour marquer qu'au point de vue métaphysique, l'Orient a toujours été dans un état de rassurante ébullition, que ce n'est jamais par lui que les choses se dégradent, et que le jour où la peau de chagrin des principes se rétrécira gravement chez lui, la figure du monde se rétrécira elle aussi. Toutes les choses seront près de leur perte, et ce jour ne m'a plus l'air d'être loin. C'est au milieu de cette barbarie métaphysique, de ce débordement sexuel qui, dans le sang même, s'acharne à retrouver le nom de Dieu, que sont nées Julia Domna et Julia Messa. Elles sont nées du sperme rituel d'un parricide, Bassianus, que je ne puis voir, moi, autrement que sous la forme d'une momie. Ce parricide a planté sa queue dans le royaume comprimé d'Émèse, qui n'était tout d'abord pas un royaume, mais un sacerdoce. Et tout cela, royaume, sacerdoce, prêtre et prêtre-roi en tête, sûr d'être injecté de matière livide, être fait d'or et descendre tout droit du soleil. Mais un jour, ce sacerdoce qui maniait les préceptes et qui annonnait des principes comme on manie au hasard et sans aucune science des épingles ou des soufflets, ce sacerdoce qui avait peut-être en lui quelque chose de divin, mais qui ne savait plus où ça se trouvait, en qui le divin était écrasé, réduit à rien comme le petit royaume d'Émèse entre le Liban, la Palestine, la Cappadoce, Chypre, l'Arabie et la Babylonie, ou comme le plexus solaire est écrasé dans nos organismes d'occidentaux, ce sacerdoce vache d'Émèse, vache c'est-à-dire femme, et femme c'est-à-dire lâche, malléable, souffletée et esclavagée, qui n'aurait pas pu conquérir sa royauté visible à la force du poignet, mais qui se trouvait à son aise dans une atmosphère de facilité et d'anarchie, sut profiter de la décomposition du royaume des Séleucides, qui suit à 160 ans de distance la décomposition, beaucoup plus importante, de l'empire d'Alexandre le Grand, pour se déclarer indépendant. De mère en fils, les sacerdotes d'Émèse, qui, depuis 1000 ans et plus, sortent des Semsigermides, se passent le royaume et le sang du soleil. De mère en fils, parce qu'en Syrie, la filiation se fait par les mères. C'est la mère qui sert de père, qui a les attributs sociaux du père, et qui, au point de vue de la génération elle-même, est considérée comme le primogéniteur. Je dis le primogéniteur. Cela veut dire que la mère est père, que c'est la mère qui est le père, et le féminin qui engendre le masculin. Et il faut rapprocher cela du sexe masculin de la lune qui empêche ceux qui le vénèrent de devenir jamais cocus. Toujours est-il qu'en Syrie, et particulièrement chez les Semsigermides, c'est la fille qui passe le sacerdoce, alors que le fils ne passe rien. Mais pour en revenir aux Bassiens, dont Héliogabale est le plus illustre, et dont Bassianus est le fondateur, il y a un terrible hiatus entre la lignée des Bassiens et celle des Semsigermides. Et cet hiatus est marqué par une usurpation et par un crime qui détourne sans l'interrompre la descendance du soleil. Or, comme chez les Samsigéramides, c'est la mère qui est le père, il faut, pour que l'historien romain ait pu l'appeler le parricide, que Bassianus ait tué sa mère. Mais comme on ne succède pas à une femme, mais à un homme, et que si la femme passe le sacerdoce, c'est tout de même l'homme qui est chargé de le garder, je pense, moi, que Bassianus a dû tuer qui le gardait, et qu'il a tué son père par la nature et son père dans la société. Il était donc de sang masculin, il s'est trouvé du côté masculin du sang solaire. Mais le fait d'avoir rétabli une fois de plus la suprématie du mâle sur la femelle et du masculin sur le féminin ne semble guère avoir arrangé les choses, puisque c'est à partir de lui que la dégringolade commence, et qu'il est difficile de trouver dans l'histoire un plus parfait assemblage de crimes, de turpitudes, de cruautés, que celui de cette famille où les hommes ont pris toute la méchanceté et la faiblesse, et les femmes la virilité. On peut dire là-dessus qu'Héliogabale a été fait par les femmes, qu'il a pensé à travers la volonté de deux femmes, et que lorsqu'il a voulu penser par lui-même, lorsque l'orgueil du mâle fouetté par l'énergie de ses femmes, de ses mères, qui ont toutes couché avec lui, a voulu se manifester, on sait ce qu'il en est résulté. Je ne juge pas qu'il en est résulté comme l'histoire peut le juger. Cette anarchie, cette débauche me plaît. Elle me plaît du point de vue de l'histoire et du point de vue d'Héliogabale. Mais à l'heure où je prends son histoire, Héliogabale n'est pas encore né. Les rois des Mèzes, ces petits rois femmes qui se veulent à la fois hommes et femmes, comme le Mégabis du temple d'Éphèse qui, homme, se lie la verge pour se sacrifier en tant que femme, mais devient la pierre couchée du sacrifice devant laquelle il sacrifie debout, ont depuis longtemps remis leur liberté entre les mains de Rome. Du vieux royaume des Mates, il ne reste plus que ce temple, obscur et volumineux. Le contrôle du négoce, la guerre, la protection matérielle des biens appartiennent aux soudards de Rome. Pour le reste, chaque Syrien pense ce qui lui plaît, et la religion du soleil demeure bardée de ci-de-là de dévotion à la lune, avec un mélange de pierres de lune, de poissons, de béliers, de sangliers. Plus des taureaux, des aigles, des éperviers par place, mais pas de coq, non. Il ne semble pas que le coq ait tenu une grande place au milieu de ces rites-là. Le temple d'Héliogabalus, à Émèse, est depuis plusieurs siècles le centre de tentatives spasmodiques, où se mesure la gourmandise d'un dieu. Ce dieu, Héliogabalus, ou, issu de la montagne, sommet rayonnant, vient de très loin. Et peut-être s'appelle-t-il le désir dans la vieille cosmogonie phénicienne. Et ce désir, comme Héliogabalus lui-même, ce n'est pas simple, puisqu'il résulte du mélange lent et multiplié des principes qui rayonnaient au fond du souffle du chaos. De tous ces principes, le soleil n'est que la figure réduite, un aspect bon seulement pour les adorateurs fatigués et déchus. Il faut dire que le souffle qui était dans le chaos devint amoureux de ses principes, et que c'est de ce mouvement en avant, de cette sorte d'idée qui élimine les ténèbres, qu'un désir conscient est né, et qu'il y a dans le soleil lui-même des sources vives, une idée de chaos réduit et complètement éliminée. Or, ce qui dans le corps humain représente la réalité de ce souffle, ce n'est pas la respiration pulmonaire, qui serait à ce souffle ce que le soleil dans son aspect physique est au principe de la reproduction, mais cette sorte de fin vitale, changeante, opaque, qui parcourt les nerfs et ses décharges, et entre en lutte avec les principes intelligents de la tête. Et ces principes, à leur tour, rechargent le souffle pulmonaire et lui confèrent tous ses pouvoirs. Nul ne pourra prétendre que les poumons qui redonnent la vie ne soient sous le commandement d'un souffle venu de la tête. Et la tête d'Héliogabalus, dieu des Mèzes, a de tout temps beaucoup travaillé. Mais en 179, lorsque Septime Sévère prend en Syrie le commandement de la 4e légion scythique, il ne reste plus de la haute cosmogonie phénicienne colportée par 100 Newton qu'une pierre noire tombée du ciel. Ce monolithe, ce bloc en pointe dont Bassianus s'est constitué le gardien, mais qui est en réalité sous la sauvegarde de ses deux filles, ces deux Syriennes voluptueuses, Julia Domna et Julia Mesa. Septime Sévère est vieux et déjà fatigué. Les sables du désert ont depuis longtemps brûlé ses semelles et mordu la corde de ses talons. Il a derrière lui deux ou trois veuvages, mais à peine débarqué, il décide de prendre femme et consulte, à cet effet, les registres de l'état civil. Dans ces registres, il trouve la lune, c'est-à-dire la pierre de lune, c'est-à-dire Julia Domna. Or, Domna, c'est Diane, Artemis, Irtar, et c'est aussi Proserpine, la force du féminin noir. Le noir, dans la troisième région de la Terre, la femme incarnée aux enfers, et qui ne remonte jamais plus haut que les enfers. Mais Julia Domna a un horoscope qui la destine à être un jour, la femme d'un empereur. et il décide d'épouser Julia Demna pour son horoscope. Or, la pierre de lune, Julia Demna, l'horoscope et les oracles hydromantiques devant lesquels il se tire les horoscopes des empereurs, tout cela marche en même temps. Je veux dire qu'en Syrie, la terre vit et qu'il y a des pierres qui vivent et que Julia Demna allie est partie avec tout cela. Il y a des pierres noires en forme de verge d'homme et un sexe de femme ciselé dessous. Et ces pierres sont des vertèbres dans des coins précieux de la terre. Et la pierre noire d'Hermès est la plus grosse de ces vertèbres, la plus pure et la plus parfaite aussi. Mais il y a des pierres qui vivent, comme des plantes ou des animaux vivent, et comme on peut dire que le soleil, avec ses taches qui se déplacent, se gonfle et se dégonfle, bave les unes sur les autres, rebave et se redéplace, et quand elles se gonflent ou se dégonflent, le font avec rythme et de l'intérieur, comme on peut dire que le soleil vit. Les taches naissent, en lui, comme un cancer, comme les bubons effervescents d'une peste. Il y a là-dedans de la matière pulvérisée qui se ramasse, comme des morceaux de soleil concassés mais noirs, et, mis en poudre, ils occupent moins de place. Et c'est pourtant le même soleil, et la même étendue, et quantité de soleil, mais éteint par place, et qui rappelle alors le diamant et le charbon. Et tout cela vit, et l'on peut dire que des pierres vivent, et les pierres de la Syrie vivent, comme des miracles de la nature, car ce sont des pierres lancées par le ciel. Et il y a beaucoup de miracles et de merveilles de la nature sur le sol volcanique de la Syrie. Ce sol qui semble tapissé et pétri entièrement de pierres ponces, mais où les pierres tombées du ciel vivent de leur vie à elles, et sans se confondre avec la pierre ponce. Et il y a de merveilleuses légendes sur les pierres de la Syrie. Témoin, ce texte de Photius, historien byzantin de l'époque de Septime Sévère. Sévère était un Romain, et père des Romains conformément à la loi. C'est lui-même qui dit qu'il avait vu une pierre où on observait les figures diverses de la lune, prenant toute espèce d'apparence, tantôt celle-ci, tantôt celle-là, grossissant et diminuant selon le cours du soleil, et contenant aussi imprimé le soleil lui-même. Il faut dire que ce texte de Photius n'est pas lui-même une œuvre originale, mais qu'il est le démarquage d'un livre perdu qui, à en juger par le nombre des écrivains qui s'y réfèrent, semble avoir constitué pour les anciens une vraie Bible du merveilleux. La vie d'Isidore par Damasius. Mais la forme la plus passionnante des pierres syriaques se retrouve dans les bétiles noires ou pierres de Bel. Le cône noir d'Hémès est un bétil qui garde son feu et s'apprête à le rendre, car les bétils sont sortis du feu. Ils sont comme les étincelles carbonisées du feu céleste, et creuser leur histoire, c'est en revenir à la genèse du monde créé. Je vis, dit encore Sévère, un bétil mu par l'air, tantôt caché dans ses découvertures, mais aussi tantôt porté dans les mains d'un serviteur. Le nom de ce serviteur qui avait soin du bétil était Eusebius, qui me dit qu'il lui était survenu subitement et d'une manière tout à fait imprévue le violent désir de sortir de la ville d'Hémès, presque au beau milieu de la nuit, et de s'en aller très loin, vers cette montagne où est érigé le vieux et magnifique temple d'Athéna, qu'il était arrivé très vite au pied de la montagne, et qui s'était assis là pour se reposer de la fatigue de la route, et qu'à cet endroit même il avait vu une boule de feu qui tombait du ciel avec une grande vitesse, et un lion énorme qui se tenait près de la boule de feu, que le lion avait tout aussitôt disparu, mais que lui avait couru à la boule de feu déjà éteinte, qu'il l'avait prise et que c'était ce bétil, et que l'ayant emporté, il interrogea à quel dieu il appartenait. Et que celui-ci répondit qu'il appartenait à Génaios. Ce Génaios est adoré par les Hiéropolitains qui lui ont érigé dans le temple de Zeus une statue en forme de lion. Qu'il avait emporté dans sa maison cette nuit même, ayant parcouru une distance qui n'était pas moindre, disait-il, de 210 stades. Eusebius n'était pas le maître de mouvement du bétil, mais il était obligé de le prier, de l'implorer, et l'autre exauçait ses vœux. C'était une boule parfaitement sphérique, d'une couleur blanchâtre, et son diamètre était long d'une palme. Mais elle devenait à certains moments plus grande et plus petite. Dans d'autres moments, elle prenait une couleur purpurine. Et il nous montra des lettres tracées sur la pierre, teintes de la couleur que l'on appelle le minium ou cinabre. Puis, il fixa le bétil dans le mur. C'est par ces lettres que le bétil donnait à celui qui l'interrogeait la réponse cherchée. Il émettait des voix comme celle d'un léger sifflement que Eusebius nous interprétait. Dans un autre passage de son livre, ce même Photius, hanté par le merveilleux de ces pierres, éprouve le besoin de revenir sur leur description, et il s'abrite une fois de plus derrière le témoignage de Sévère. Sévère racontait, entre autres choses, pendant son séjour à Alexandrie, qu'il avait vu aussi une pierre héliaque, non pas telle que nous en avons vue, mais qui lançait du plus profond de sa masse des rayons d'or, formant un disque semblable au soleil placé au centre de la pierre et qui présentait d'abord à la vue une boule de feu. De cette boule jaillissaient des rayons qui allaient jusqu'à sa circonférence, car toute la pierre avait la forme sphérique. Il avait vu aussi une pierre sélénite, non pas de celle où l'on voit apparaître une petite lune, seulement après l'avoir plongée dans l'eau, et qu'on appelle pour cela hydrosélénite, mais une pierre qui, par un mouvement propre et inhérent à sa nature, tournait lorsque la lune tournait, et de la manière qu'elle tournait, œuvre vraiment merveilleuse de la nature. La petite ville d'Apamé, sous Émèse, se dresse au pied de l'Antiliban, dans un paysage de laves mortes et de poussières d'ossements. Son petit temple du soleil-lune possède un oracle hydromantique, oracle qui ne se trompe jamais. C'est vers lui qu'on aurait pu voir un jour du monde ancien, dans la boîte de la lumière solaire, toute la famille d'Héliogabale, Bassianus, l'arrière-grand-père, Julia Domna, la grand-tante, Julia Messa, la grand-mère, marchaient en troupe comme des pèlerins. Bassianus, jaune à crier, s'avance lentement au pas d'un âne, et ses filles sont devant lui. Ils atteignent à midi sonnant, qui est l'heure où l'oracle parle, la seconde enceinte du temple, et ils s'approchent du vivier sacré. La vie d'Isidore par Damasius contient une description de cet oracle qui valut, dit-on, à Julia Domna la royauté. Et il faut croire que l'oracle ce jour-là fut particulièrement précis et particulièrement consciencieux, puisque c'est d'après lui que fut tiré l'horoscope qui annonça à Julia Domna qu'elle serait reine un jour. Et l'on sait que, 30 ans après, Varius Marcellus, père putatif d'Héliogabale, fait dresser en l'honneur de l'oracle une stèle votive qui contient gravé dans la pierre l'horoscope de Julia Domna, à ce moment-là réalisé. Ceux qui venaient d'honorer la déesse Aphrodite sortie des eaux, reconduite Venale d'après le livre perdu, apportaient des présents en or et en argent, des toiles de lin, de byssus et d'autres matières précieuses, et si ces présents étaient acceptés, les étoffes aussi bien que les objets pesants allaient au fond. Si, au contraire, ils étaient repoussés et rejetés, on voyait surnager les étoffes et même tout ce qui était fait d'or, d'argent et de matières assez pesantes pour ne pas flotter naturellement. Des tablettes de bronze oblongue, percées d'un trou, qui permettaient de les enfiler dans une cordelette à la façon des sortilèges étrusques, et portant des réponses banales rédigées en latin archaïque sur un rythme approchant de l'hexamètre, nous ont conservé un spécimen de ces talismans ou sortilèges sur lequel vivaient les oracles italiques. Parmi les autres miracles et merveilles de la Syrie, dont les historiens rendent témoignage, il y a des apparitions fabuleuses, comme celle d'Apollonius de Tyane devant Antioche, et celle de cette divinité mystérieuse qui se manifeste devant Émèse peu de temps après la mort d'Héliogabale, comme le raconte Vopiscus dans la vie de l'empereur Aurélien. Devant Émèse, la cavalerie d'Aurélien avait tourné bride quand une divinité qui ne fut connue que plus tard vint encourager nos soldats. L'impératrice Zénobie prit la fuite. Aurélien entra dans Émèse en triomphateur et sur le champ se rendit au temple d'Héliogabale, voulant s'acquitter envers les dieux. Là, il aperçut encore, et sous la même forme, la divinité qu'il avait vue dans le combat, encourageant l'effort de ses armes. De retour à Rome, il fit bâtir en l'honneur du soleil un temple dont la dédicace fut faite avec la plus grande magnificence. Alors parurent à Rome ces robes couvertes de pierreries que nous voyons dans le temple du soleil, ces dragons venus de Perse, ces mitres d'or. Mais au-dessus de ces légendes et de ces racontars de la terre qui, symbolique ou non, et comme tous les symboles, cache et révèle en clair, mais d'une manière réversible, les plus précises et plus indiscutables vérités, il y a les racontars et légendes du ciel. Il y a les fables métaphysiques, les cosmogonies, la Genèse, non pas biblique mais phénacienne, qui, fausse ou non dans sa rédaction primitive, nous transmet, par le moyen de la stèle de Sankognaton, l'esprit profond et les préoccupations limoneuses, je veux dire, qui touchent à l'antique Limon, des premiers mercantis issus de la couleur rouge, rouge-jaune comme les menstrues. Ces menstrues rouges-jaunes qui sont la couleur et le drapeau des Phéaciens retracent le souvenir de la plus terrible des guerres. Rouge-jaune, l'étendard de la femme, contre blanc-sperme, l'étendard du sexe masculin. Je reviendrai, à propos des principes, sur cette guerre qui oppose sans trêve possible le féminin au masculin. Pour l'instant, je ne veux m'attarder qu'à une guerre de merveilles, d'anomalies naturelles, de spectacles rituels splendides où l'homme et la femme se mêlent par l'or et par la lune sur le manteau du prêtre officiant. En Syrie, les temples sont des résonateurs de merveilles réelles, de magie extériorisée, et un nombre considérable de temples qui ne semblent mis là que pour illustrer cette guerre, ces rites, ces anomalies, rivalisent de splendeur sur toute l'étendue de la Syrie, les uns consacrés au soleil, les autres à la lune, sans que l'on sache jamais très bien qui est la femelle, qui est le mâle, et si c'est le mâle qui a produit la femelle ou inversement. Il y a le temple du soleil à Emez, qui semble avoir la primauté sur les autres temples du soleil mâle, comme s'il y avait plusieurs soleils dont chacun pris en particulier est le double de tous les autres, et comme la lune est le double femelle d'un dieu unique et masculin. Et le temple du soleil-lune à Apamé, tout pavé de pierres de lune, et celui de la lune à Hierapolis près d'Emez, qui, extérieurement consacré à la femme, comporte un trône rabougri et diminué pour le mâle, qu'on ne montre plus qu'une fois dans l'année et sous la figure d'Apollon. Apollon, c'est-à-dire le soleil en mouvement et qui court, le soleil libéré d'une partie de lui-même, la plus haute, et considéré dans sa force mouvante, le soleil descendu de son trône et qui accepte de se mettre à l'œuvre, qui n'est plus roi, puisqu'il n'est pas assis, qui n'est pas immobile, et qui travaille, et qui est devenu le fils du roi, comme le Christ est fils de Dieu. Lucien, auteur grec du XIIe siècle après Jésus-Christ, raconte une visite qu'il a faite au temple d'Astarté à Hierapolis. Mais on chercherait en vain dans son récit une précision sur les rites qui s'y pratiquent. Rien ne semble l'avoir frappé, en dehors d'un pittoresque tout extérieur. Le temple renferme des objets précieux, d'antiques offrandes, une foule d'objets merveilleux, des statues vénérées et des dieux toujours présents. En effet, les statues issues se meuvent et rendent des oracles. Car si les pierres rendent des sons, si elles volent, si elles ont un souffle, une respiration qui leur appartient, les statues aussi ont un souffle qui est sans doute l'esprit du dieu. Souvent, dit Lucien, une voix se fait entendre dans le sanctuaire, le temple fermé. Beaucoup l'ont entendu. Il faut croire que le temple ouvert, la supercherie devenait impossible. Il y aura toujours des truqueurs à côté des initiés. J'ai vu, continue Lucien, le trésor secret du temple, où sont conservées les reliques, les richesses nombreuses, étoffes, objets en or et en argent, rangés séparément. Le temple contient en outre des cornes d'éléphant, des poteries, des tissus éthiopiens. Dans le vestibule, on voit deux énormes phallus. On peut aussi voir dans l'enceinte du temple un petit homme d'airain, assis et qui est muni d'un énorme membre. L'emplacement même où on a bâti le temple d'Hierapolis est une colline située au milieu de la ville. Il est entouré de deux murailles. L'une de ces murailles est ancienne, l'autre n'est de pas de beaucoup antérieure à notre époque. Les propylées sont d'une étendue d'environ 100 brasses, 160 mètres. Sous ces propylées sont placés des phallus hauts de 30 brasses, 48 mètres. Sur l'un de ces phallus, un homme monte deux fois par an et demeure au haut du phallus pendant 7 jours. La raison de cette ascension, la voici. Le peuple est persuadé que cet homme, de cet endroit élevé, converse avec les dieux, leur demande la prospérité de toute la Syrie, et que ceux-ci entendent de plus près sa prière. D'autres pensent que cela se pratique en l'honneur de Deucalion, et, comme souvenir de ce triste événement, lorsque les hommes fuyaient sur les montagnes par crainte de l'inondation. Le temple d'Hierapolis contenait un trou par lequel on disait que l'eau du déluge s'était écoulée. Pour monter sur le phallus, l'homme passe une grosse chaîne autour du phallus et de son corps. Puis il monte au moyen de morceaux de bois qui font saillie sur le phallus et assez large pour qu'on y pose le pied. À mesure qu'il s'élève, il soulève la chaîne avec lui comme les conducteurs de chars soulèvent les rênes. Si l'on n'a jamais vu cela, on a certainement vu monter à des palmiers, soit en Arabie, soit en Égypte ou ailleurs, et on comprend alors ce que je veux dire. Parvenu au terme de sa route, notre homme lâche une autre chaîne qu'il porte sur lui et, par le moyen de cette chaîne, qui est fort longue, il tire à lui tout ce dont il a besoin, bois, vêtements, ustensiles. Il s'arrange avec tout cela une demeure, une espèce de nid, s'y assied, et séjourne le temps dont je parlais. La foule qui arrive lui apporte les uns de l'or, les autres de l'argent, d'autres du cuivre. On dépose ses offrandes devant lui, et on se retire en disant chacun son nom. Un autre prêtre est là, debout, qui lui répète les noms, et lorsqu'il les a entendus, il fait une prière pour chacun. En priant, il frappe sur un instrument d'airain qui rend un son bruyant et criard. L'homme ne dort point. S'il se laisse aller au sommeil, on dit qu'un scorpion monterait jusqu'à lui et le réveillerait par une piqûre douloureuse. Telle est la punition attachée à son sommeil. Ce qu'on dit là du scorpion est saint et divin. Le temple regarde le soleil levant. Par sa forme et sa structure, il ressemble au temple construit en Ioni. C'est ici que l'on sent la femme. Si au lieu de nous donner une description extérieure du temple d'Hiéropolis, et jamais sa description n'est plus extérieure que quand il fait mine de violer ses entrailles et de s'introduire dans ses secrets, Lucien avait eu la moindre curiosité pour les principes, il aurait recherché sur les colonnades du temple l'origine extra-humaine des sexes pétrifiés de femelles qui en forment l'ornementation. C'est le principe même de l'architecture d'Ioni. Mais revenons-en à sa description documentaire. Cette description a l'avantage de fixer un certain nombre de détails concrets, bien que superficiels, et elle précise ce goût inné du décorum, cet amour des prestiges, vrai ou faux, chez un peuple où le théâtre n'était pas sur scène, mais dans la vie. Une base haute de 2 brasses s'élève de terre. C'est sur cette base que le temple est assis. En y entrant, on est saisi d'admiration. Les portes sont d'or, à l'intérieur l'or brille de toutes parts, il éclate sur toute la voûte. On y sent une odeur suave, pareille à celle dont on dit que l'Arabie est parfumée. Du plus loin qu'on arrive, on respire cette senteur délicieuse, et quand on en sort, elle ne vous quitte pas. Elle pénètre profondément les habits, et vous en gardez toujours le souvenir. Au-dedans, dans une enceinte reculée, sont placées les statues de Jupiter et de Junon, auxquelles les habitants de la ville donnent un nom aux consonances prises dans leur langage à eux. Ces 2 statues sont d'or et assises, Junon sur des lions, Jupiter sur des taureaux. La statue de Junon tient un sceptre d'une main, de l'autre une quenouille. Sa tête couronnée de rayons porte une tour et est ceinte du diadème dont on ne décore d'ordinaire que le front d'Uranie. Ses vêtements sont couverts d'or, de pierres infiniment précieuses, les unes blanches, les autres couleur d'eau, un grand nombre couleur de feu. Ce sont des sardoines onyx, des hyacinthes égyptiennes, des émeraudes que lui apportent les Indiens, les Mèdes, les Arméniens, les Babyloniens. La statue porte sur la tête un diamant appelé lampe. Il jette durant la nuit une lueur si vive que le temple en est éclairé comme par des flambeaux. Dans le jour, cette clarté est beaucoup plus faible. La pierre conserve pourtant une partie de ses feux. Il y a encore dans cette statue une autre merveille. Si vous la regardez de face, elle vous regarde. Si vous vous éloignez, son regard vous suit. Si une autre personne fait la même expérience d'un autre côté, la statue ne manque pas de faire de même. Entre ces 2 statues, on en voit une 3e également d'or, mais qui n'a rien de semblable aux 2 autres. C'est le Sémillon. Elle porte sur la tête une colombe d'or. Quand on entre dans le temple à gauche, on trouve un trône réservé au soleil, mais la figure de ce dieu n'y est pas. Le soleil et la lune sont les 2 seules divinités dont ils ne montrent pas les images. Ils disent qu'il est inutile de faire des statues de divinités qui se montrent chaque jour dans le ciel. Le culte de Baal à Emez, représenté par la vigoureuse verge d'Elagabal, dieu noir, faisait pendant, par ses rites complexes et surchargés, au culte de Tanit Astarté, la lune qui, à quelques kilomètres de là, sévissait dans les profondeurs fraîches du temple des Hiéropolis. C'est là, dans ce temple consacré au vagin de la femme, à son sexe divinisé, qu'un Apollon transpirant et barbu était sorti aux principales fêtes et consacrait ses oracles à la voix du grand prêtre en avançant ou en reculant sur les épaules de ses porteurs. Cet Apollon tout en or, avec sous le menton un implanté de gros grains noirs, arrive à Dodome, soutenu par une bonne douzaine de porteurs titubants et qui parviennent à peine à supporter sa masse. La foule s'incline, l'encens monte, a l'air de fuser par tous les orifices. Au fond du temple, le grand prêtre attend le dieu, lui-même badigeonné d'un signe, surchargé de pierreries, d'oripeaux, de plumages, 3, frêle, aérien comme un battant de cloche, suant d'or. Dans le silence soudainement tombé, on n'entendait pas des voix, des allées, des venues, de toutes sortes dans les chambres souterraines de l'édifice, tout cela formant comme d'étranges des étages superposés de chuchotements et de bruits. Sous le sol, le temple descend en spirale vers les profondeurs. Les chambres de rite s'entassent, se succèdent verticalement. C'est que le temple est comme un vaste théâtre où tout serait vrai. Au moment de l'apparition du dieu ivre qui fait tituber ses gardes, le temple vibre, en harmonie avec les tourbillons stratifiés des sous-sols, connus et repérés depuis la plus haute antiquité. Dans les chambres des rites, et jusqu'à plusieurs centaines de mètres au-dessous du niveau de sol, les veilleurs se passent le mot, donnent de la voix, heurtent des gongs, font frémir des trompes dont les voûtes se renvoient les échos. Sur l'aile des cris, sur les nuages roulants de l'encens et des bruits, pareils à des masses mouvantes de fumée, le grand prêtre interroge l'oracle, le sonde, l'invoque à grands cris et rythmiquement. On voit alors le dieu fou, dont la barbe fait un grand trou noir au milieu de l'or, où il est tout entier noyé. On voit le dieu s'agiter, écumer, comme pris de rage ou bouleversé par l'inspiration. Si l'oracle est favorable, si la réponse de l'oracle est « oui », le dieu pousse ses porteurs en avant. Si l'oracle est défavorable, si la réponse de l'oracle est « non », le dieu tire ses porteurs en arrière. Lucien lui-même prétend avoir vu un jour ce dieu, las des questions qu'on lui posait, se libérer de l'étreinte de ses gardes et s'envoler d'un trait vers le ciel. On voit d'ici la foule, prise d'une sorte de religieuse terreur, se ruer hors du temple, piétiner sur le parvis, se heurter, tourbillonner autour des deux grands phallus, hauts comme des pylônes, et momentanément inutilisés, avec leurs quelques 100 coudées de haut. Tout ceci rend à peine compte d'un certain aspect extérieur de la religion d'Astarté, la lune, bizarrement mêlée au rite d'Apollon, le soleil barbu. Mais il faut insister sur la présence de ces deux pylônes, qui se dressaient l'un derrière l'autre dans l'alignement intérieur du temple. Ces deux pylônes, représentant des phallus, se dressent dans l'axe même du soleil, de façon à former, avec le point où le soleil se lève à une certaine époque de l'année, une sorte de ligne idéale dans laquelle le temple est pris, et qui fait que l'ombre de la première colonne, la colonne la plus rapprochée du temple, se confond exactement avec l'ombre de l'autre. C'est là le signe d'un intense débordement de sexe, auquel tout ce qui est spécialement religieux dans le royaume, et même ce qui ne l'est pas, n'aurait garde de ne pas se mêler. Mais ce qui est pour les Galles une invite à la mutilation est, pour la majeure partie du peuple, une invite à fornication. Pendant que les nouvelles vierges sacrifient sur l'autel de la lune leur virginité fraîchement acquise, leur sainte mère, sortie pour un jour du gynécée familial, se livre aux égoutiers du temple, aux gardiens des écluses sacrées, qui, émergeant pour un jour aussi de leurs ténèbres, viennent offrir leur sexe mâle aux rayons du soleil extérieur. De ces Galles qui jettent leurs membres en courant, qui perdent leur sang en abondance sur les autels du dieu pythique, des femmes deviennent amoureuses soudainement. Et les maris, les amants de ces femmes, respectent ces amours sacrés. Ces explosions amoureuses ne durent qu'un temps. Les femmes quittent bientôt les cadavres de ces hommes recouverts de robes féminines qu'ils ont reçues dans leur course mortelle. Ceci dit, il faut reconnaître que la Syrie, qui brûle les temples, qui a oublié la guerre que la femelle et le mâle se sont faites autrefois dans le chaos, et les guerres que les Phéaciens ou Phéniciens, qui ne sont pas des Sémites, ont faites dans d'autres temps aux Sémites, non pas pour une idée de mâle et de femelle, mais de masculin et de féminin, la Syrie, qui a réconcilié dans ses temples ces deux principes et leurs multiples incarnations, a tout de même le sentiment d'une certaine magie naturelle. Elle croit aux prodiges et les recherche, mais, par-dessus tout, elle conserve une idée de la magie qui n'est pas naturelle. Elle croit à des zones d'esprit, à des lignes mystiques d'influence, à une sorte de magnétisme errant et qui prend forme et qu'elle exprime par des figures sur ses cartes du ciel barbare qui n'ont rien à voir avec ses cartes d'astronomie. Une femme, seule de son espèce dans l'histoire, a été l'incarnation de cette magie et de ces guerres, Julia Domna. Au confluent du réel et de l'irréel, elle élève ses vues grandioses qu'alimente par en dessous la respiration des pierres parlantes, et à qui le merveilleux sert en même temps de décor et de miroir. Julia Domna, qui a fait la guerre, qui a allumé et suscité des guerres pour servir ses ambitions de femme et ses idées de domination, est également responsable de cette accumulation de merveilles qui remplissent la vie d'Apollonius de Tyane, écrite par Philostrate. Apollonius de Tyane, le blanc, qui recharge la spiritualité de la terre avec des signes faits dans les tombeaux. Je pardonne à Julia Domna son mariage avec cette espèce de fou romain dénommé Septime Sévère, et je lui pardonne ses fils, encore plus fous et plus criminels que leur père, pour la vie d'Apollonius de Tyane, écrite sur son ordre, et où je prends tout dans son sens littéral. D'ailleurs, sans Julia Domna, il n'y aurait pas eu des lieux gabales. Mais je crois que sans cet alliage pédérastique de la royauté et du sacerdoce, où la femme vise à être mâle et le mâle à se prêter des allures de féminin, la féminité royale de Julia Domna, infusée de merveilleux et d'intelligence, n'aura jamais pensé à briller sur le trône de l'Empire romain. Il y a fallu des circonstances extérieures et qu'elle soit une maîtresse femme. Tout cela réuni fait un monstre qui pousse un empereur à la guerre, mais qui, une fois écarté de la guerre, suscite des poètes autour d'elle, comme elle susciterait des guérisseurs et des sorciers. Tous ses amants sont des gens qui servent à quelque chose et qui lui servent. Elle mêle le sexe et l'esprit, et jamais l'esprit sans le sexe, mais jamais non plus le sexe dépourvu d'esprit. En Syrie, et encore jeune fille, elle couche à droite et à gauche, mais toujours avec des médecins, des politiques, des poètes. Elle se donne à des gens qui sont dans sa ligne à elle, sans s'occuper de leur ligne à eux. Être reine d'abord, ses couchages la conduisent à la royauté. Et il faut croire qu'à Septime Sévère, elle a dû tenir la dragée haute en 179, quand il venait prendre en Syrie le commandement de la 4e Légion Scythique, et cela jusqu'à son mariage un peu plus tard, et même après. Elle dépense son comté, et ne sait pas, comme Julia Mesa, ourdir une subtile intrigue. Mais elle prépare de grands plans. L'ambition, par-dessus tout, est la force. L'ambition, jusque dans le sang, et même, une fois au-dessus du sang. Que ses deux fils s'entretuent sous elle, elle laisse le mort pour le vivant, parce que le vivant s'appelle Caracalla et qu'il règne. Et parce qu'elle domine Caracalla avec sa tête et qu'elle garde le trône, tandis qu'elle l'envoie guerroyer au loin. Un historien latin, Dion Cassius, raconte que Julia Domna couche avec Caracalla dans le sang de son fils Rheta, assassiné par Caracalla. Mais Julia Domna n'a jamais couché qu'avec la royauté, celle du soleil d'abord, dont elle est la fille, celle de Rome ensuite, qu'elle recouvre comme un cheval couvre une jument. Pourtant, cette force ne va pas sans mollesse. On s'amuse ferme à la cour de Julia Domna, depuis que sous les auspices de Julia Messa, sa sœur, et des filles de celle-ci, elle est parvenue à implanter à Rome les habitudes de la Syrie. Le sperme coule à flot peut-être, mais c'est un fleuve intelligent, que ce fleuve de sperme qui coule et qui sait qu'il ne se perd pas. Car la mollesse, ici, n'est que l'écume de la force. Une crête qui tremble au vent. Rien n'abat cette femme extraordinaire. Quand la guerre s'en va, la poésie rentre. Et pendant ce temps, sa sœur est là, sous sa coupe, et avec elle ses filles, par qui se perpétuera la race du soleil. Héliogabale naît à Antioche, en l'an 204, pendant le règne de Caracalla. Et Caracalla, Mesa, Domna, Semia, la mère d'Héliogabale, alors veuve de Varius Antoninus Macrinus, et Mamea, mère d'Alexandre Sévère et veuve de Gessius Marcianus, curateur du blé ou des eaux, tout cela couche ensemble, se démène, banquette, et excite autour de soi les transes de fakirs syriens. Puis arrive au loin, près d'un temple de la lune mâle, du dieu Lunus, l'assassinat de Caracalla, tandis qu'il est descendu de cheval et qu'il pisse. Et Macrin, le nouvel empereur, s'installe sur le trône de Rome, sans ne jamais pu revenir à Rome, s'imaginant tout gouverner du fond de la Syrie où il se trouve, là-bas, et où il a perpétré l'assassinat de Caracalla. C'en est peut-être fait alors de la royauté de Julia Domna. Toutefois, Macrin la laisse où elle est, il la respecte, et Julia Domna n'en revient pas. Cependant, elle n'est plus vraiment reine. Elle conserve le titre, les honneurs, l'escorte, la force armée, ça compte, et surtout le trésor d'une reine. Le trésor, c'est le plus important. Mais elle n'a plus part au gouvernement de l'Empire. Et elle complote en douce pour reprendre ce gouvernement. Macrin apprend tout cela, et il rappelle en Syrie Tardar, Julia Domna, Julia Mesa, Julia Semia et Julia Maema, et en plus, le petit Varius Antoninus, de la famille des Bassiens des Mèzes, que nous appellerons Héliogabale, bien qu'il n'en ait encore pas reçu le nom. La mère d'Héliogabale se trouvait à Rome, au moment où elle le conçut, et par conséquent Caracalla a pu être son père, bien qu'il n'ait eu à l'époque que 14 ans. Mais pourquoi un Romain de 14 ans, fils de Syrienne, ne réussirait-il pas à faire un enfant à une Syrienne de 18 ans? Ce n'est pas à Rome qu'Héliogabale est né, mais par hasard à Antioche, au cours d'une de ces navettes mystérieuses que la famille des Bassiens faisait de la cour de Rome au temple des Mèzes, en passant par la capitale militaire de la Syrie. De retour en Syrie, Julia Domna, qui a toujours aimé la royauté par-dessus tout, chez qui l'amour au fond n'a pas compté, et la poésie d'Apollonius de Tyane et de quelques autres a toujours été pour elle la forme la plus haute de royauté, Julia Domna, qui ne peut supporter d'avoir perdu la couronne, décide de se laisser mourir de faim. Et elle le fait. Voici réinstallée en Syrie Julia Meza et sa sœur. Nous sommes en l'an du Christ 211. Eliogabal peut avoir 7 ans. Et depuis 2 ans déjà, il a été fait prêtre du soleil. Mais autour du petit royaume des Mats, sur lequel règne Eliogabal, il y a la Syrie désertique et blanche, dont il serait tout de même important de savoir ce qu'elle devient. Au point de vue militaire, elle est calme. Au point de vue physique et géographique, elle est à peu près identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Oronte, qui baignait les murs du temple d'Émèse par une sorte de bras détourné, a cessé de les baigner. Antioche s'appelle Antioche, et Émèse s'appelle Homs. Du temple du soleil, il ne reste plus rien, à croire qu'il a disparu sous terre. Il a vraiment disparu sous terre puisqu'il est encore là, qu'on a construit une mosquée à un demi-stade à sa droite en regardant vers le couchant, mais qu'une simple place pavée recouvre ses fondations fabuleuses où personne jamais n'a eu l'idée d'aller creuser. Pour la ville d'Homs, elle pue comme puait Émèse, car l'amour, la viande et la merde, tout s'y fait en plein vent. Et les pâtisseries près des latrines, comme les boucheries rituelles auprès des autres boucheries. Tout cela crie, débonde, fait l'amour, jette le venin et le sperme, comme nous autres nous jetons nos crachats. Dans les ruelles, à grands pas rythmés et semblables à ceux que devaient faire les grandes statues d'Assuérus, des marchands psalmodient dans Homs comme ils psalmodiaient dans Hermès, devant leurs boutiques semblables à de véritables mises à l'encan. Ils ont ces robes longues que l'on voit dans les évangiles, et ils se démènent dans des odeurs affreuses, telles des baladins ou des pitres orientaux. Et devant eux, mais en 211, une foule passe, mêlée d'esclaves et d'aristocrates, et au-dessus d'eux, sous les hauteurs de la ville, rayonnent les murailles brûlantes du temple millénaire du soleil. Sortis des ruelles marchandes où, parmi les détritus d'aliments, pourrissent de gros rats d'égout, approchons-nous du temple lui-même, dont la splendeur secrète a fait rêver une partie de l'Antiquité. À un demi-stade du temple, les odeurs cessent, le silence se fait. Un vide gorgé de soleil sépare le temple de la ville basse, car le temple du soleil à Émèse, comme à peu près tous les temples syriaques, domine sur un monticule surélevé. Ce monticule est fait des entrailles d'autres temples, de débris de palais et des vestiges d'antiques convulsions terrestres qui, si on voulait en déterminer l'origine, nous ramèneraient à un déluge beaucoup plus reculé que celui du Deucalion. Une enceinte basse de torchis roses ferme le temple à la crête du monticule, suivie, à une distance de la largeur de la place de la Concorde, d'une seconde enceinte de pierres rares, recouverte d'un glacis de mica brillant. Ouverte la porte de la seconde enceinte, les bruits sacrés, les bruits intérieurs commencent, et s'offrent à l'œil un spectacle déconcertant. Le temple est là, avec son aigle aux ailes ouvertes, et qui garde le phallus sacré. De grandes ondes de lueurs argentifères frémissent sur ses parois de marbre, rappelant à l'esprit les cris multiples que, durant le cours des grandes fêtes solaires, semble pousser l'Apollon pythien. Et au cours du temple, en multitude, sortant de grandes bouches d'égout noir, les serviteurs rituels défilent, comme nés des sueurs du sol, car dans le temple d'Émèse, l'entrée de service est sous la terre, et rien ne doit troubler le vide qui porte le temple au-delà de l'enceinte la plus reculée. Un fleuve d'hommes, d'animaux, d'objets, de matériaux, de victuailles, naît en plusieurs coins de la ville marchande et converge vers les souterrains du temple, créant autour de ses chambres alimentaires comme la trame d'une immense toile d'araignée. Cet entrecroisement mystérieux d'hommes, de bêtes vivantes ou écorchées, de métaux portés par des sortes de petits cyclopes qui ne verront le jour qu'une fois l'an, d'aliments, d'objets fabriqués, créés à certaines heures du jour, un paroxysme, des nœuds de criailleries et de bruits, mais on peut dire qu'il ne s'arrête jamais. Sous terre, les bouchers, les convoyeurs, les charretiers, les distributeurs qui sortent du temple par ses dessous et furettent dans la ville tout le long du jour pour donner aux dieux rapaces ses 4 parts quotidiennes d'aliments, se croisent avec les sacrificateurs, ivres de sang, d'encens et d'or fondu, avec les fondeurs, avec les héros des heures, avec les marteleurs des métaux, cloués dans leurs chambres basses pendant tous les jours de l'an, et qui n'en sortent qu'au jour fatidique des jeux pythiques, appelés aussi Héliapythia. C'est qu'autour des 4 grands repas rituels du dieu solaire tourne un peuple de prêtres, d'esclaves, de héros et de desservants, et que ces repas eux-mêmes ne sont pas simples, mais qu'à chaque geste, à chaque rite, à chaque manipulation sanglante, à chaque couteau trempé dans un acide et essuyé, à chaque vêtement nouveau que Bassianus enlève ou revêt, à chaque bruit frappé, à chaque mélange brusqué d'or, d'argent, d'amiante ou d'électrum, à chaque gond qu'on roule et qui traverse les souterrains rayonnants avec le bruit de la roue cosmique, répond un envol d'idées sombres et torturées, d'idées amoureuses de formes et qui brûlent de se réincarner. Une masse d'or jetée dans un gouffre alimenté par des cyclopes, à l'instant précis où le grand sacrificateur ravage frénétiquement la gorge d'un grand vautour et emboie le sang, répond à une idée de la transmutation alchimique des sentiments en forme et des formes en sentiments sur le rite passé par les prêtres égyptiens. Mais à cette idée du sang versé et de la transmutation matérielle des formes, répond une idée de la purification. Il s'agit d'isoler le gain obtenu de tout sentiment de jouissance immédiate et personnelle pour le prêtre, et que cet éclat, cette explosion de frénésie rapide, puisse retourner, sans surcharge de matière, aux principes dont ils sont issus. De là ces chambres innombrables consacrées à une action ou même à un simple geste, et dont les souterrains du temple, ces entrailles grouillantes, étaient comme farcies. Le rite de l'ablution, le rite de l'abandon, du détournement, du dépouillement, le rite de la nudité complète et dans tous les sens, le rite de la force corrosive et du bondissement imprévu du soleil correspondant à l'apparition du sanglier sauvage, le rite de la rage du loup alpestre et celui de l'obstination du bélier, le rite de l'émanation des chaleurs tièdes et celui du grand crépitement solaire à l'époque où le principe mâle marque sa victoire sur le serpent, tous ces rites, à travers 10 000 chambres, se répondent journellement, ou de mois en mois, et de couple d'ans en couple d'ans. Ils se répondent d'une robe à un geste, et d'un pas à un jet de sang. Car ce qui, de la religion du soleil, telle qu'elle se pratiquait à Émèse, est passé à l'extérieur, et que le gros du peuple voyait, n'en est que la partie édulcorée et réduite, et dont seuls les prêtres du dieu pithique pourraient révéler la torturante et abominable inspiration. Si un phallus tournant, et vêtus de robes multiples, marquent ce que le culte du soleil a de noir, les étages bruyants, qui conduisent l'idée du soleil sous la terre, réalisent d'une manière physique, par leurs pièges et leurs charmes coupants, un monde d'idées infiniment sombre, et dont les ordinaires histoires de sexe ne sont que le revêtement. Ces idées qui fixent le culte du soleil, tel qu'il se pratiquait à Émèse, touchent à la méchanceté cosmique d'un principe, auquel l'erreur, périodiquement commise par les peuples, a été de fournir une détestable issue dans les choses en le vénérant dans ce qu'il a de noir. Le triangle renversé que font les cuisses quand le ventre s'enfonce au milieu d'elles comme un coin reproduit le cône obscur de l'Ereb, dans l'espace maléfique duquel les adorateurs du phallus solaire, qui donnent en cela la main aux dévorateurs des monstres lunaires, introduisent leurs exaltations. Ce n'est donc pas le coït, mais la mort, et la mort dans la lumière désespérante, dans la chute d'une partie de Dieu, dont toutes ces religions initiatiques révèlent la figure impuissante, impuissante à la fois et méchante, comme un or qui, pour montrer sa souveraineté dans le domaine de la réalisation basse, verrait une partie de lui-même se détacher avec le poids du plomb. Et tout ceci, qui révèle le caractère affreux d'une religion pourtant monothéiste, prouve que Dieu lui-même ne devient que ce que l'on en fait. Là où les pyramides d'Égypte, avec leurs triangles maçonnés, sont un appel à la lumière blanche, il faut rêver au centre souterrain du temple d'Émèse une sorte de filtre triangulaire, un filtre pour le sang humain. Le sang des sacrifices d'en haut ne peut se perdre dans les égouts ordinaires, il ne doit pas, mêlé aux ordinaires d'éjection humaine, urine, sueur, sperme, crachat ou excréments, retrouver les eaux primitives de la mer. Et il y a, sous le temple d'Émèse, un système d'égouts spéciaux, où le sang de l'homme rejoint le plasma de certains animaux. Par ces égouts, en forme de vrille ardente, dont le cercle se rétrécit à mesure qu'ils avancent dans les profondeurs du sol, ce sang d'être sacrifié avec les rites voulus va retrouver des coins sacrés de la terre. Il touche aux primitifs fillons géologiques et aux tressaillements figés du chaos. Ce sang pur, ce sang allégé et subtilisé par les rites, est rendu agréable aux dieux d'en bas, asperge les dieux grondants de l'Ereb, dont le souffle finit de le purifier. Or, de la pointe de son phallus à l'ultime circuit de ses égouts solaires, le temple, avec les protubérances de ses niches, de ses fontaines, de ses bas-reliefs, de ses pierres vibrantes plantées comme des clous dans les murs, est tout entier compris dans une sorte d'immense cercle qui répond au cercle spasmodique du ciel. C'est là, au centre de ce cercle illusoire, et comme au point vivant d'une toile à la minute où l'araignée s'y tient, que se trouve la chambre au filtre semblable à un triangle renversé. Et la pointe creuse du filtre répond en sens inverse à la pointe du phallus d'en haut. Dans cette chambre close, seul le grand prêtre est descendu à bout de corde, comme un seau dans les profondeurs d'un puits. On l'y descend une fois l'an, à minuit, dans un accompagnement de rites étranges où le sexe physique de l'homme prend une importance démesurée. Ce triangle avait sur ses bords une sorte de chemin de ronde fermé par un épais garde-fou, et sur ce chemin ouvraient d'autres chambres sans issue vers la lumière extérieure, mais où pendant 7 jours, dans une période qui correspond aux saturnales grecques ou romaines, s'accomplissaient d'atroces tueries. J'en reviens maintenant à Héliogabale, qui est jeune et qui s'amuse. De temps en temps, on l'habille, on le jette sur les marches du temple, on lui fait accomplir des rites que sa cervelle ne comprend pas. Il officie avec 600 amulettes qui créent des zones sur son corps. Il tourne autour des autels consacrés aux dieux et aux déesses. Il se pénètre de rythmes de chants, d'odeurs et d'idées multiples. Et le jour vient où tout cela se ramasse, où le sang du soleil monte en rosée dans sa tête, et chaque goutte de rosée solaire devient une énergie et une idée. Il est trop facile de dire que c'est Julia Meza, la souris ou le soufre, qui a conduit toute l'intrigue destinée à mettre Héliogabale sur le trône des Césars romains. Tous ceux qui ont réussi dans la vie et qui ont fait parler d'eux, c'est qu'ils avaient eux aussi quelque chose. Et ceux qui, comme Héliogabale, sont parvenus à offusquer l'histoire, c'est qu'ils avaient des qualités qui auraient pu changer le cours de l'histoire si les circonstances avaient été pour eux. Julia Meza a cette supériorité sur Doma, sa sœur, qu'elle n'a jamais rien cherché pour elle-même, qu'elle n'a jamais confondu ni la royauté romaine, ni la royauté solaire des Bassiens avec sa petite personne, et qu'elle a su se dépersonnaliser. Renvoyée à Émèse par Matrin, elle y transporte et le trésor de l'Empire ramassé par Julia Domna, et le trésor du sacerdoce syriaque qui moisissait quelque part à Antioche. Et elle enferme tout cela à l'intérieur de l'enceinte du temple, considéré par tous comme inviolable et comme sacré. Souris, elle fait son travail de souris qui tourne sans arrêt autour des choses. Elle dope, elle nourrit par-dessous la gloire d'Héliogabale, elle la nourrit de toutes parts et par tous les moyens possibles. Elle n'y regarde pas à la qualité de ses moyens. À ce piédestal qu'elle met sous la statue sacrée du petit prince, la beauté d'Héliogabale a sa part, mais aussi l'intelligence surprenante d'Héliogabale et son précoce développement. Héliogabale a eu de bonne heure le sens de l'unité qui est à la base de tous les mythes et de tous les noms, et sa décision de s'appeler Héliogabalus et l'acharnement qu'il mit à faire oublier sa famille et son nom et à s'identifier avec le dieu qui les couvre est une première preuve de son monothéisme magique qui n'est pas seulement de verbe mais de l'action. Ce monothéisme, ensuite, il l'introduit dans les œuvres. Et c'est ce monothéisme, cette unité du tout, qui gêne le caprice et la multiplicité des choses, que j'appelle moi, de l'anarchie. Avoir le sens de l'unité profonde des choses, c'est avoir le sens de l'anarchie, de l'effort à faire pour réduire les choses en les ramenant à l'unité. Qui a le sens de l'unité a le sens de la multiplicité des choses, de cette poussière d'aspects par lequel il faut passer pour réduire et détruire. Et Héliogabale, en tant que roi, se trouve à la meilleure place possible pour réduire la multiplicité humaine et la ramener par le sang, la cruauté, la guerre, jusqu'au sentiment de l'unité.